FM, une émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée, Laurence Guégan-Gélinet. Bonjour Laurence.
Bonjour, merci à vous de m'inviter aujourd'hui.
C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du personnel du syndicat des copropriétaires. Donc je rappelle Laurence Guégan-Gélinet, vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous êtes également membre de la CNEC, la Chambre nationale des experts en copropriété, et en son sein, le GRECO, le groupe de recherche en copropriété. Donc aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, c'est la première fois en 5 ans, il était temps, on va parler des gardiens, des concierges, du personnel du syndicat des copropriétaires. Il y a beaucoup de choses à voir sur le plan juridique notamment. Alors, déjà, première question en préambule, c'est vrai qu'on trouve assez peu d'avocats spécialisés en copropriété, comme vous l'êtes, qui soit aussi spécialisée en droit social. Pourquoi ?
Alors, c'est parce que je pense que c'est dû à la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles qui, effectivement, pour ce qui concerne en tout cas les gardiens de catégorie B, contrairement aux employés d'immeubles de catégorie A, mais les gardiens de catégorie B échappent à toute la réglementation en matière de droit du travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'horaire. Leur travail est calculé en fonction du nombre de tâches qu'ils ont à faire et en fonction aussi du nombre d'unités de valeur affectées à ces tâches. Donc c'est tellement dérogatoire que ça peut rebuter les avocats qui normalement font du droit du travail, parce que c'est tout à fait spécifique et unique en droit du travail.
Oui, voilà, donc c'est... Bon, alors c'est parce que... Alors déjà, la copropriété est complexe, le droit social est complexe, là on est vraiment à la croisée des deux mondes, et donc vous êtes fait cette spécialité, donc c'est très bien. Alors, vous l'avez dit, les textes de référence, c'est le Code du travail et la convention collective des gardiens concierges. Alors, le syndic, le gestionnaire, sur son bureau, il a le code de la copropriété, il a éventuellement le dicobat, il a un testeur d'humidité, mais c'est vrai qu'il n'a pas souvent la convention collective des gardiens concierges d'immeubles. Le syndic s'en occupe, hein, mais est-ce que c'est le gestionnaire ? Est-ce que c'est le comptable ? Souvent le gestionnaire sur la partie contrat, le comptable plus sur la partie fiche de paye. Est-ce que, la question que je voulais vous poser, est-ce que, puis après on verra si on met ça sur notre bureau, la convention collective est lisible ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce qu'elle est simple à lire ?
Mais comme je vous disais, c'est-à-dire que c'est une convention collective en ce qui concerne les gardiens qui déroge tellement que vous avez une annexe 1 qui comporte le nombre d'unités de valeur affectées au nombre de tâches à convertir en fonction du nombre de lots. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas très accessible à tout un chacun.
Mais après, les règles d'embauche, licenciement, congés payés...
Toutes ces règles-là, en fait, s'appliquent. Donc vous avez, en matière de gardien, les règles qui sont prévues par le Code du travail, de manière générale, auxquelles renvoient des sections du Code du travail spécifiques aux gardiens et concierges employés d'immeubles, certains articles qui s'appliquent à eux et eux seuls, plus la convention collective des gardiens concierges. Donc c'est vrai que vous avez... l'article 31 du décret qui renvoie à tous ces textes-là et qui précise que le syndic engage et congédie le personnel et s'occupe des conditions de travail en fonction des usages et locaux et des textes. Donc ça, l'article 31 du décret renvoie à toute une catégorie de textes et c'est très important comme
Alors,
comme
qu'est-ce catégorie. Qu'on entend justement ? Est-ce que quel est un peu le rôle de chacun ? Parce que justement, cet article 31 dit le syndic embauche et congédie, c'est dans ses prérogatives et l'Assemblée générale fixe le nombre et la nature.
La catégorie
voilà, des emplois. Qu'est-ce qu'on entend par personnel du syndicat ? Finalement, c'est qui ? Et qui est l'employeur entre le syndicat des copropriétaires et le syndic ?
Alors, c'est très clair, l'article 31 le dit expressément. Elle dit que c'est le personnel employé par le syndicat. Hein. Donc c'est bien le syndicat qui est l'employeur. Le syndic n'est que le mandataire, le représentant du syndicat des copropriétaires. Et donc ça n'est pas du tout lui qui est l'employeur.
Donc l'employeur, c'est bien le syndicat des copropriétaires.
C'est bien le syndicat.
Mais qui a autorité ? Le lien de subordination, le lien hiérarchique entre employé et employeur, là, pour le coup.
Oui, l'article 31 dit il engage et congédie le personnel et il fixe les conditions de son contrat de travail. Il s'occupe de tout. C'est lui qui est le délégué. C'est un petit peu comme le directeur des ressources humaines, finalement, pour une entreprise. C'est lui qui décide des conditions de travail et qui s'occupe du contrat de travail, de la paye, etc., etc.
Donc c'est le syndic en personne qui a autorité dans le bon sens du femme.
Au
bon
sens du lien de subordination.
Lien de subordination sur l'employé, sur le gardien.
Oui.
Le président du conseil syndical n'a pas cette autorité.
Aucune autorité. Et d'ailleurs, on a de la jurisprudence classique qui nous dit bien que le président du conseil syndical ne peut donner aucun ordre, aucune directive au gardien ou à l'employé d'immeuble, sous peine effectivement d'être déclaré responsable des difficultés que peut avoir le gardien avec les directives qui lui sont données.
Alors écoutez bien, les présidents de conseils syndicaux, ce n'est pas vous qui pouvez donner des ordres au syndic, c'est au syndic, lapsus révélateur, il ne peut pas non plus d'ailleurs, au personnel, c'est bien le syndic. Alors justement, le syndic, quelles sont, dans les grandes lignes, ses obligations vis-à-vis de l'employé?
Alors, le syndic donc engage le personnel, donc c'est lui qui le reçoit en entretien, décide finalement du recrutement, mais il faut faire très attention puisque l'Assemblée générale, elle, a ses propres compétences, c'est elle qui décide du nombre et de la catégorie des emplois. Le syndic ne peut pas recruter un nouveau gardien qui n'aurait pas été prévu par l'Assemblée générale. Donc il peut remplacer le gardien qui part à la retraite ou qui démissionne ou qui s'en va et qui est licencié, mais il ne peut pas créer un nouvel emploi, par exemple remplacer par un gardien une société de nettoyage qui était auparavant employée par le syndic.
Alors, mais le syndic, en tant que représentant de l'employeur, a les obligations de l'employeur, on va dire classiques, du droit du travail, sécurité, formation.
Il doit veiller effectivement à la formation, c'est dans le contrat de syndic qu'il est prévu que le syndic veille à la formation et à la sécurité des employés du syndicat.
Formation, sécurité. On parle aussi de la protection de la santé, harcèlement.
Protection de la santé, notamment le harcèlement moral, puisque en effet, on a de plus en plus de difficultés en termes de harcèlement moral lorsque le gardien se trouve confronté à des directives répétées qui émanent des copropriétaires ou des locataires de l'immeuble.
C'est là qu'il est difficulté, parce que si le harceleur est le président du conseil syndical, ça veut dire que le syndic, qui a aussi une relation commerciale, on va dire peut-être pour le coup, avec le président du conseil syndical, en termes de vote au moment de l'Assemblée générale, va devoir rappeler à l'ordre le président du conseil syndical pour lui dire arrêtez d'harceler le gardien.
Bien entendu, et il a même l'obligation de le faire, puisque le syndic a une obligation de résultats, ou en tout cas de moyens renforcés, au plan de la sécurité du personnel du syndicat. Et donc s'il a vraiment connaissance de difficultés de harcèlement moral, si la gardienne ou le gardien lui fait part de ces difficultés, il doit faire en sorte d'arrêter ce harcèlement.
Donc obligation de résultat, il ne doit pas se contenter de faire un courrier pour dire arrêtez d'harceler le gardien.
Exactement, il doit mettre en œuvre tous les moyens pour empêcher que ces actes continuent. Donc, alors ce n'est pas une obligation de résultat, parce que l'obligation de résultat finalement... c'était un peu idiot d'en avoir fait une obligation de résultat, parce qu'il suffisait de rien, enfin, on faisait rien pour empêcher, alors que l'obligation de moyens renforcés fait que le syndic est obligé de mettre en œuvre tous les moyens pour arrêter ça.
Il faut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Alors, il y a une question qui se pose souvent, notamment au moment de l'Assemblée générale. Comme on le sait, le syndic ne peut pas venir avec des pouvoirs en Assemblée générale. C'est préposé non plus.
Non.
Donc, comme on parle de lien de subordination, est-ce que le gardien pourrait être vu, considéré comme un préposé du syndic, auquel cas il ne pourrait pas venir en Assemblée générale avec un pouvoir ? On a de la jurisprudence là-dessus.
Oui, on avait un article 22 qui était assez mal rédigé à une époque où le législateur apparemment avait l'intention d'éviter que le gardien puisse être en possession d'un pouvoir pour voter à l'Assemblée générale. Mais la loi Elan a réformé l'article 22 parce que c'était de toute façon très maladroitement écrit. Et désormais, il a enlevé le mot salarié de l'article 22, ce qui fait que le gardien, comme de toute façon auparavant, a toujours le droit, et c'est pas du tout interdit, d'être en possession d'un pouvoir. Et ça arrive d'ailleurs assez fréquemment finalement, puisque parfois les copropriétaires n'ont que le gardien de connaissance à qui confient leur mandat pour aller voter à l'Assemblée Générale ou pour le donner au syndic en mandat en blanc au cas où.
Mais donc le gardien n'est pas un préposé du syndic,
et
il peut venir en Assemblée Générale avec un pouvoir sans problème, il n'y a pas d'incompatibilité. Alors bon, là on est peut-être un peu plus dans le social, dans le relationnel, mais vous le voyez aussi en tant qu'avocate, c'est vrai que parfois on a des clans au sein de l'immeuble entre les copropriétaires qui sont pro-gardiens, ceux qui sont anti-gardiens. Le syndic est souvent pris à partie, alors il faut faire preuve d'une forte résistance, mais ça arrive parfois jusqu'à l'avocat. Vous constatez, vous gérez comment ces situations ?
Ça arrive assez fréquemment finalement. J'ai été pour la première fois très étonnée par un premier prud'homme que j'ai eu au tout début, où dans une très grande copropriété, je suis allée au conseil de prud'homme pour défendre le licenciement des gardiens, un couple de gardiens. Et je me suis étonnée de voir que finalement, lors de cette audience, la partie adverse a montré 90 attestations de copropriétaires qui trouvaient que le gardien était extrêmement intéressant, qui travaillait très bien, son épouse également. Et donc, c'est là que j'ai vu que pour la première fois, qu'en réalité, souvent, il y a deux clans dans ce genre de dossier. Et vous avez ceux qui sont pour le gardien, ceux qui sont contre. Finalement, ils peuvent faire capoter une procédure de prud'homme qui a été engagée par le syndicat des copropriétaires. Et c'est ce qui s'est produit.
Et effectivement, le gardien peut être d'une grande aide le plus souvent pour la gestion du syndic, puisque il est sur place, il est sur le terrain, mais parfois ça peut être une source de conflits et donc du temps est très chronophage pour le syndic. Justement, l'entretien d'embauche. Alors, on dit que le syndic embauche et congédie le personnel. Cependant, dans la pratique, l'entretien d'embauche, le choix du gardien, le conseil syndical y est souvent associé. Il est d'ailleurs conseillé que le conseil syndical donne son feu vert sur les CV, sur le choix final du profil du candidat.
Alors c'est soit sur le choix final, c'est-à-dire que le syndic reçoit plusieurs candidats et puis ensuite fait une petite réunion avec le conseil syndical pour leur expliquer un petit peu ce qu'il en a trouvé, enfin ce que lui en pense. Parfois même, j'ai vu des syndics qui associaient des membres du conseil syndical aux entretiens d'embauche.
Moi, je le constate aussi de plus en plus souvent, le conseil syndical et le syndic, de pair, font les entretiens d'embauche. J'ai même vu parfois le conseil syndical faire tout seul ses entretiens d'embauche et dire au syndic « c'est bon, on a trouvé, vous n'avez plus qu'à lui préparer le contrat de travail ». C'est des choses qui se feront dans une forme de co-gestion, de façon intelligente, pourquoi pas. Alors, le contentieux social, puisque vous êtes avocate, en copropriété et en social, est-ce qu'il est abondant sur le personnel du gardien? Et quels sont les litiges les plus courants? Est-ce que c'est sur des contestations de fiches de paye, sur du licenciement, rupture conventionnelle, harcèlement?
On a beaucoup de contentieux en matière de harcèlement, c'est vrai. On a des difficultés à cause de ça, parce qu'en effet, de plus en plus, les copropriétaires pensent que c'est à eux de donner des instructions ou de surveiller le travail du gardien, etc.
Oui, donc ça, on le constate de plus en plus.
On constate beaucoup de difficultés de ce type.
Un mélange, un mélange des genres, final, entre le conseil syndical,
ce qui
syndic.
Nécessite effectivement, pour le syndic, de prévenir aussi ce genre de comportement, en précisant bien au conseil syndical que ce n'est pas à eux de s'occuper, ou aux copropriétaires d'arrêter de donner des directives, parce que ça peut aussi troubler l'exécution du contrat de travail avec des directives différentes. C'est au syndic de donner des directives, seulement au syndic, de donner des directives pour le personnel et pas...
Donc c'est surtout ça, les sources de contentieux. On a peut-être un peu les fiches de paye, des licenciements contestés.
On a beaucoup de difficultés. En dehors du licenciement, on a aussi des problématiques à propos du logement décent, puisque la convention collective des gardiens-concierges, puisqu'il y a une obligation de loger le gardien, prévoit que le logement du gardien doit être un logement décent, ce qui n'est pas tellement le cas à Paris parfois, parce que vous avez des WC qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas chauffés. Alors les caractéristiques du logement décent sont de plus en plus importantes, donc l'article 20 de la convention collective forcément devient de plus en plus exigeant.
Donc tout ça c'est du contentieux conseiller prud'homme.
On a du contentieux prud'homal, oui, puisque le conseil de prud'homme est compétent pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, comme la fin du contrat de travail. Alors effectivement le reste ce sont un contentieux spécifique en matière de licenciement. Lorsque les copropriétaires souhaitent se séparer du gardien, soit pour des motifs inhérents à sa personne, des fautes graves ou pas graves, en tout cas des motifs inhérents à sa personne, ou des motifs non inhérents à sa personne. Et on a de plus en plus des volontés, il y a une tendance des copropriétaires à se séparer du gardien pour préférer avoir une société moins chère.
Alors justement, ça m'amène à la question suivante, licenciement pour faute ou licenciement économique. Est-ce qu'un syndicat des copropriétaires, qui n'est pas une entreprise, on le rappelle, peut faire un licenciement économique?
Alors, tout à fait, c'est une bonne question, puisque là, c'est vraiment l'exemple de quelque chose de dérogatoire, parce que dans toutes les matières, vous avez soit c'est un motif inhérent à la personne et c'est un licenciement inhérent, soit c'est pas inhérent à la personne et c'est économique. Mais en droit de la copropriété pour le gardien, non, on peut licencier un gardien pour un motif non inhérent à sa personne, sans que ce soit un motif économique, du moment qu'on décide de supprimer le poste de gardien. Ça, c'est un arrêt de la Cour de cassation de 2017 qui a complètement fait voler en éclats toute la jurisprudence auparavant et qui a précisé ce point-là.
Et donc un syndicat de copropriétaires pourrait pas dire on licencie parce que le gardien maintenant nous coûte trop cher et donc financièrement on peut plus suivre.
Alors, s'il le dit, il serait bien embêté, parce que ce qui s'est passé avec cet arrêt de la Cour de cassation de 2017, 1er février 2017, la Cour de cassation nous dit on peut licencier du moment que vous avez supprimé le poste, vous licenciez le gardien, ce n'est pas un motif économique de licenciement et ça pose aucun problème, on peut le faire. On s'est demandé si les cours d'appel allaient embrayer sur cet arrêt de la Cour de cassation, et c'est ce qu'elles ont fait. On a trois arrêts de différentes cours de cassation, de différentes cours d'appel, pardon, Paris, Aix-en-Provence, etc., qui décident qu'en effet, on peut licencier du moment qu'on supprime le poste. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment supprimer le poste avant de licencier, parce que on a vu aussi des exemples où le poste n'a pas été supprimé. On licencie parce qu'on veut supprimer le poste, mais ce n'est pas efficace du tout. Il faut faire ça dans l'autre sens. On supprime d'abord, on licencie ensuite. Et puis, vous avez le licenciement pour motif économique que, naturellement, il ne faut pas invoquer. On a des arrêts qui disent, oui, vous vouliez supprimer le poste, mais vous avez invoqué des motifs économiques de suppression de poste. C'est-à-dire, vous dites, parce que vous supprimez le poste parce que vous avez des problèmes pour payer les travaux qui sont prévus, etc. Mais si vous dites ça dans la lettre de licenciement, il faut absolument que vous en justifiez. Or, vous ne justifiez pas de motif qui justifie ça. Ou alors, un autre arrêt, je crois que c'est la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est ça, qui nous dit, en 2021, vous avez justifié d'un motif économique. Vous n'étiez pas obligé. Vous pouviez simplement vous prévaloir de la suppression de poste. Mais comme vous avez invoqué le motif économique, vous êtes volontairement mis dans le cadre d'un motif économique de licenciement. Et vous ne justifiez pas des éléments du motif économique, donc c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc il faut faire très très attention pour être bien dans
alors, justement, il y a aussi un problème de chronologie, de timing. On a dit que le syndic congédiait le personnel, c'est-à-dire que le syndic, sans l'Assemblée générale, peut licencier un gardien. Cependant, ce licenciement, parfois, entraîne systématiquement une indemnité qui, en fonction de l'ancienneté et du montant du salaire, peut être très importante. 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Donc le syndic va vouloir se faire couvrir par l'Assemblée générale alors qu'il n'en a pas besoin légalement puisqu'il peut le faire d'office. Cependant, on a de la jurisprudence qui a annulé, qui a condamné un licenciement puisque le licenciement avait été voté par l'Assemblée générale avant qu'il ne soit fait. Sauf que si on le fait ratifier par l'Assemblée générale une fois que c'est fait, c'est peut-être trop tard. Enfin, c'est trop tard, puisque c'est fait, c'est signé. Alors, comment on fait à ce moment-là, surtout s'il y a une grosse indemnité à verser à la clé?
Oui, c'est vraiment l'exemple des difficultés d'articulation du droit du travail avec le droit de la copropriété. Puisque le syndic est censé, effectivement, pouvoir congédier le personnel, sauf que, évidemment, il ne peut pas prendre le risque tout seul de décider tout seul. Il faut qu'il se soit... En effet, une décision qui soit prise en accord avec le conseil syndical, parce que l'Assemblée générale, c'est vrai que c'est pas possible d'acter quelque chose.
S'il y a une résolution qui acte le licenciement, ça va vicier votre procédure derrière.
Complètement, puisqu'on doit convoquer préalablement le personnel à un entretien préalable. Si on acte du licenciement avant l'entretien préalable, la Cour de cassation nous dit « vous n'avez pas respecté la procédure de licenciement, donc c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Donc dans ce sens-là, c'est pas bon non plus. Sauf dans un cas particulier, puisqu'il y a eu un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2010, qui a dit que si jamais dans le règlement de copropriété, il est prévu qu'on ne peut licencier le personnel du syndicat que le gardien en l'espèce, que si c'est l'Assemblée générale qui prend la décision, ce règlement de copropriété doit être respecté.
Bien sûr.
Et il faut donc que ce soit l'Assemblée générale qui décide du licenciement avant que la personne soit licenciée. Donc là, c'est très très particulier. Alors déjà, le syndic doit faire attention que dans le règlement de copropriété, ce ne soit pas quelque chose de ce type qui soit prévu avant de prendre la décision tout seul. Et ce type de clause, la Cour de cassation l'a dit plus ou moins, c'était une clause qui aurait pu être réputée non écrite, mais ça n'avait pas été soulevé. Mais en même temps, c'est une clause qui était une clause de fond. La Cour de cassation considérait que c'était une circonstance qui n'annulait pas la procédure,
donc
parce que c'était une condition de fond et pas de forme.
Faire voter le licenciement avant, et avant c'est trop tôt, et après c'est trop tard. On le fait avec le conseil syndical un peu en off, quoi.
Tout à fait. Et c'est ce que la doctrine nous dit qu'il faut faire hein, depuis toujours, parce qu'il y a des conséquences trop importantes. Le syndic, sinon, serait recherché en responsabilité s'il prenait tout seul la décision d'un licenciement qu'on pourrait considérer sans cause réelle et sérieuse s'il n'avait pas respecté les conditions de fond ou les conditions de forme du licenciement.
Alors, dernière question, avant de nous quitter, une fois qu'on a licencié ou une fois que la gardienne part à la retraite, hein, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait de la loge ? Est-ce qu'on la vend ? Est-ce qu'on la garde ? Si on la vend, à quelle majorité ? Est-ce que c'est les deux tiers ? Est-ce que c'est l'unanimité ? On a l'article 26 qui nous dit c'est l'un ou l'autre, mais quel est le critère ?
Alors, on parle de suppression du poste de gardien, donc l'article 26 nous dit maintenant que c'est une décision qui doit être prise c'est à l'unanimité, si jamais cette décision pose une modification des conditions de jouissance des parties privatives. Donc, si jamais le poste de gardien est prévu dans le règlement de copropriété, il faut savoir que c'est l'unanimité de tous les copropriétaires pour supprimer le poste de gardien. Et l'article 26 nous dit aussi, maintenant, que si on supprime le poste de gardien, il faut que ce soit la même majorité que la vente de la loge se fasse dans une même décision d'Assemblée générale. Mais, bien sûr, on n'est pas obligé de vendre la loge en même temps qu'on supprime le poste de gardien. On peut faire autre chose. On peut décider de ne pas la vendre, justement. Du moment que la décision est prise dans la même Assemblée générale et aux mêmes conditions de majorité que la suppression du poste de gardien.
C'est-à-dire... Donc c'est unanimité si c'est prévu au règlement de copropriété, mais si ce n'est pas prévu au règlement de copropriété, est-ce que ça peut être unanimité aussi s'il y a atteinte à la destination de l'immeuble ?
Normalement, non. Ce serait à ce moment-là l'article 26 seulement et pas l'unanimité.
Sauf si un copropriétaire souhaiterait engager une procédure pour prétendre
que
qu'il y a atteinte à la destination de l'immeuble. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne vend plus trop les loges. Hein, moi, je le constate. Les copropriétaires ont peur que quelqu'un vienne, une personne étrangère à l'immeuble, vienne racheter la loge et en face du Airbnb, parce que c'est bien pratique de faire du Airbnb au rez-de-chaussée. Et comme on a de nouveaux usages par rapport à la mobilité et les vélos, et qu'ils n'ont pas de locaux vélos dans ces vieux immeubles, ils profitent du départ de la gardienne pour vendre la loge et la transformer en local vélo. Après, ils perdent un service qu'ils avaient avant grâce à leur gardienne et qui pouvaient rendre des petits services et surtout faire du lien social. Et souvent, cette tâche-là est transférée au conseil syndical et au syndic, mais pas avec les mêmes moyens.
Oui, et puis c'est la mémoire de l'immeuble, le gardien aussi. Et il y a un arrêt de la Cour de cassation qui nous dit aussi qu'on ne peut pas avoir d'équivalence de conditions entre le service qui est fait par un gardien, notamment pour des gens âgés, en termes de sécurité. Rien ne remplace, il n'y a pas d'équivalence des prestations entre une entreprise qui est là pour faire le ménage et sortir les poubelles et quelqu'un qui est là à demeure et qui assure la sécurité non seulement de l'immeuble, mais parfois de la rue tout entière et du quartier même.
Mais c'est vrai que l'argument financier est souvent en défaveur du maintien du poste de gardien. Moi, je le vois sur certains immeubles, on passe du simple au double entre les charges sociales, le salaire versus la prestation d'un prestataire, une société de ménage. On peut passer du simple au double et voilà. Et puis c'est vrai que les procédures, comme on l'a vu, pour se séparer d'un gardien sont parfois très lourdes, donc ça aussi ça refroidit, mais ça c'est le droit du travail en général, les copropriétaires. Je vous remercie beaucoup, on a un tout petit peu dépassé, mais c'est pas grave, c'était intense et surtout très instructif. Je vous remercie Laurence Guégan. Je rappelle que vous êtes Laurence Guégan-Génilet, avocate au barreau de Paris, membre de la CNEC, la Chambre nationale des experts en copropriété, et du Gréco, le groupe de recherche en copropriété. Merci Laurence.
Merci à vous.
1000 millième, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.